Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial Halloween, avec le choix d'un livre, un one-shot, une lecture voilà, qu'on pourrait lire, pas de trilogie, pas de livre de tome 1, de tome 2, de tome 3. On se retrouve avec Johanna pour vous parler du livre du Thé pour les fantômes, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2023 je crois.
Ouais, il n'y a pas très longtemps. Oui, parce que c'est ce qu'on disait avant, l'autrice, finalement, elle est relativement jeune, à moins que vous ayez 20 ans.
À notre âge, du coup,
elle
est jeune.
Voilà, elle a 34, je crois.
33-92, donc oui.
Et ben, voilà, même âge que toi.
Oui.
Et oui, du coup, c'est son...
Deuxième livre,
ouais. Et elle s'appelle Chris...
Lukisevich.
C'est bien.
Oui.
Ça se trouve, tu le dis pas bien.
Peut-être.
On ne sait pas.
En fait, j'ai mis le « che ». Peut-être que c'est Ick à la fin. Bon, en tout cas, elle a sachez qu'elle a un deuxième nom d'auteur. Si jamais vous ne la trouvez plus sous ce nom-là, vous pouvez la retrouver sous le nom d'Ada Vivalda. Voilà, c'est son deuxième petit nom. Et oui, donc Du thé pour les fantômes, c'est son deuxième récit. Et c'est l'un des premiers aussi pour lequel elle a eu des grandes récompenses. Mmh. Et, elle a eu le prix de l'imaginaire et le prix imaginaire. Donc voilà, un roman qui est récent, donc on change un peu de formule, on va moins spoiler que d'habitude.
Oui, on va faire une première partie avec plus où on regarde un peu le style d'écriture, on va dire, les grands thèmes qui nous ont intéressés, qu'on a trouvé bien, et après il y aura une partie spoil où là on raconte vraiment les gros événements qui arrivent dans le livre, donc si vous ne voulez pas écouter, ben, vous pourrez couper. Mais voilà, on va commencer par une partie sans spoil, pour
ouais.
Une fois.
C'est vrai. Et ben, on peut commencer peut-être par la note globale. Combien tu lui donnes à cette lecture, à ce livre ?
Eh bien, je lui donne la note de 7 sur 10, parce que globalement, il m'a bien plu. Il y a quelques petits détails où voilà, je ne mets pas un 10 sur 10, ça ne m'a pas transporté non plus à ce point-là. Mais c'est un très bon roman. Et toi, du coup, tu mettrais combien ?
Eh ben pareil, on s'était dit...
Oui, c'est vrai, on s'était dit la note.
J'avais hésité, je fais 7,5.
Non, un bon 7.
Non, un bon 7. Parce que effectivement, j'ai bien aimé aussi ce livre. Mais, c'est horrible parce que quand on dit mais, on pense que c'est toujours négatif.
Oui.
C'est juste que si je devais vous donner des raisons de lire ce livre, toi aussi d'ailleurs... La première chose que je retiens, c'est que c'est une lecture très originale, aussi bien sur le style que sur le fond.
Ouais.
Sur le style, sans vous spoiler quoi que ce soit de l'histoire, il y a des détails dans la narration qui sont assez sympas. Il y a la présence d'un conteur, et le fait aussi qu'en tant que lecteur, on fait partie du livre, de l'histoire. On a un rôle, on incarne un personnage, alors on est en arrière-plan, mais on est vraiment à l'intérieur du livre. Et ça, c'est rare, en termes de narration, d'être impliqué à ce point-là dans une histoire.
Et d'ailleurs, on n'a pas trop dit pourquoi on l'a choisi pour l'épisode d'Halloween, au final. Parce qu'il y a un côté... c'est ce qu'on disait, en fait, c'est un livre qui se passe en France. Et comme je disais à Justine, moi, c'est pareil, je ne regarde jamais trop les résumés. Et bon, déjà, je pensais que l'autrice était un auteur. Et je pensais qu'il était, je sais pas, américain, je sais pas pourquoi, ou polonais, après bon c'est le nom, mais bref, et en fait pas du tout, donc elle est française et elle vit à Antibes, et l'histoire se passe à Nice, et du coup dans la région...
Là où elle a fait ses études, elle a étudié au lycée, dont parle le livre.
Ah ok, ah oui elle l'a pris pour...
Ouais.
Mais c'est marrant.
Elle le connaît bien. Plus détaillé.
Ouais, donc effectivement, moi, ce que j'ai trouvé bien sympa, c'est le fait que, comme c'est sa région et qu'elle y a vécu, forcément, il y a plein de détails hyper précis sur notamment la ville de Nice, mais aussi sur la vallée des Merveilles.
Ouais.
Et au départ, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, waouh, l'Américain, il connaît vachement bien Nice, tu vois, est-ce qu'il est en vacances ? Après, j'ai regardé, j'ai fait, ah mais non, en fait, ok, c'est une autrice et elle vit là-bas. Et la Vallée des Merveilles, je pensais que c'était un truc inventé, parce que je pensais qu'elle avait fait un mix entre vie réelle et elle avait ajouté des détails fantastiques. Mmh. Et en fait, non. Du coup, la Vallée des Merveilles, ça existe vraiment et c'est près du parc du Mercantour.
Oui, c'est ça, dans les hauteurs de Nice.
Voilà. Donc en fait, c'est que des lieux qui existent réellement, qu'elle a pris pour décor, du coup, sur son roman. Et il y a le côté Halloween, du coup, c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi, parce que du coup, il y a une histoire de fantôme, puisqu'il y a une des personnages principales qui a la capacité de parler, en fait, avec, avec les morts, avec leurs fantômes, du moins.
Oui.
Voilà. Donc,
en leur servant du thé.
En leur servant du thé, voilà.
Voilà les deux mots clés du titre
d'où,
du bouquin.
D'où les étrangetés,
ouais.
Voilà, sans surprise.
Et donc oui, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au... Tu pensais que c'était inventé, et en fait non. Mais le bouquin fait partie, parce que le courant littéraire qu'on appelle le réalisme magique. Et ça, pareil, si on pouvait vous donner une envie de lire un livre dans ce genre-là, c'est qu'on part du réel et on y rajoute de la magie. Et ça, c'est la démarche est chouette aussi. C'est pas quelque chose, un univers complètement inventé, sorti du chapeau, où du coup la magie de base, elle existe parce que l'auteur a décidé qu'elle existe. Là, elle est rajoutée.
Oui, et d'ailleurs, c'est plus simple si vous êtes des personnes qui ont du mal peut-être à se projeter dans les univers qui sont très très inventés. Comme du coup, si je sais pas à quel moment on aura posté l'épisode, mais si on est dans la passe miroir, voilà, l'univers il est archi.
Oui, les règles.
Et voilà, c'est beaucoup plus complexe à comprendre et à se mettre dedans. S'il n'y a pas beaucoup de projections, ça peut être difficile. Alors que là, bon, c'est des choses qui sont tout à fait basiques. Et il y a un petit peu le côté magique.
Oui.
Mais c'est vraiment, c'est saupoudré très finement, je trouve.
Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Parce que la géographie, on la connaît.
Ouais.
Les rues, les coutumes, on les connaît. Mais c'est juste du folklore. Hein, qui est induit dedans. On part de ce folklore-là et on l'étend à un autre univers, entre guillemets. Mais ça part... Le point de départ de l'histoire, c'est le réel. Donc ça, c'était très chouette. Et puis, en termes... ce que j'ai trouvé aussi sur ce livre, c'est une lecture qui est très riche, voire complexe.
Oui, dans les... Alors... Là, pour le coup...
Au niveau des thématiques abordées...
Oui, moi, ouais. Je l'ai lu sur ma liseuse, parce que voilà, on a eu un débat avec Justine sur est-ce qu'on préfère les livres papier ou la liseuse. Moi, je prends la liseuse parce que déjà, c'est plus fin, tu peux l'emmener partout. Et surtout, ça permet, en fait, d'avoir le dictionnaire intégré. Et quand tu sais pas un mot, tu peux passer ton doigt et t'as la définition. Et là, je l'ai fait souvent parce qu'il y a quand même du vocabulaire qui est assez recherché et des mots que je connaissais pas du tout et que je voyais pour la première fois. Donc c'est vrai que le style d'écriture est riche, il y a beaucoup de détails, mais en même temps ça aide à bien se mettre dans le récit, je trouve. Il y en a pas trop, bon, sauf si vous aimez pas du tout les histoires où il y a beaucoup de descriptions, type Le Seigneur des Anneaux. Et encore, non, là ça va, j'exagère.
Oui, non.
C'est le style d'écriture, il est vraiment chouette. Et il y a une partie aussi que toi tu as bien aimée, moi un tout petit peu moins, c'est la partie sur la poésie.
Oui, parce que il y a le style de narration qui est intéressant dans ce livre-là, et aussi le fait que ce soit... il y a certains passages, effectivement, qui sont en prose, voire en vers, mais avec un décalage au niveau de la mise en page, on sent vraiment qu'on rentre dans un autre type d'écriture. C'est vraiment plus poétique, beaucoup plus aéré, avec des sauts de ligne, on le voit directement. Et ouais, cette poésie-là, c'est quelque chose de rare aussi, d'allier à la fois un roman et un recueil. J'ai bien aimé ça, et surtout que c'est à des endroits très particuliers.
Oui, c'est vraiment quand ça verse dans des sujets qui sont super touchants.
Oui.
Et c'était bien amené. Moi qui suis pas très sensible à la poésie, j'ai quand même trouvé que c'était à sa juste place. Et en plus, pour par exemple des gens qui n'aimeraient pas trop la poésie, comme c'est mon cas, là ça permet d'en introduire un petit peu et de se dire finalement peut-être que j'aime bien la poésie, que ça me touche, mais en tout cas c'est bien amené. On a un invité spécial, on a le chat sur la table.
Comme d'habitude.
Voilà, si vous entendez le petit chat, c'est normal.
Donc oui, en termes de narration et de style d'écriture, y a plein de choses qui se passent dans ce bouquin. Et t'as parlé effectivement du langage. C'est spécifique aussi à l'auteur, parce qu'elle a fait beaucoup d'études au niveau sciences du langage, édition, donc
oui.
Je pense qu'elle a une culture quand même littéraire très poussée. Et au niveau des sujets abordés, des thématiques, c'est aussi très riche, voire un peu pesant. Parce que je me suis dit des fois, un petit trigger warning, ça aurait pas été en début de bouquin.
Oui, c'est vrai qu'il y a des passages où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sec. Je sais pas comment dire. Mais
il y a, ça parle bon, essentiellement de famille, de relations.
Oui, parce qu'on n'a pas fait le résumé.
On peut en faire un résumé rapide, effectivement, sans dévoiler ce soit, parce que bon, c'est la quatrième de couverture. Ça se dit dans la quatrième de couverture. Donc oui, du thé pour les fantômes. C'est l'histoire de deux sœurs. Alors, il y en a une que on sait comment l'appeler. La première sœur, c'est Félicité, c'est la passeuse de fantômes. Et la deuxième sœur, sa sœur jumelle, c'est Égonia. Alors, dans le résumé, je crois que... voilà, tu vois, c'est agonie.
Oui.
Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, Égonia ou Agonie, avec Félicité, ce sont deux sœurs. On sait qu'elles ne sont pas parlées depuis 30 ans. Et en fait, à la mort de leur mère, elles vont se retrouver pour recueillir ces derniers mots. Mais pour cela, il va falloir retrouver son fantôme, le spectre.
C'est ça.
Le spectre de leur mère. Et donc voilà, ils vont entreprendre un voyage qui les pousse à reconstruire leur passé de cette femme, de cette mère complexe qui a aimé l'une et rejeté l'autre.
C'est un bon résumé.
Et donc voilà, au travers de ce voyage, on va rencontrer des gens, on va entendre des témoignages, vivants ou morts, et on va essayer de reconstituer un peu le portrait de cette femme et reconstituer aussi peut-être la relation entre les deux sœurs.
C'est ça.
Sans spoiler, du tout.
Non, ça c'est... c'est déjà dit dans la quatrième. Et c'est vrai qu'il y a un gros sujet sur la famille, comme tu l'as dit, puisque c'est l'histoire de deux sœurs et de leur mère. C'est vrai que ça peut être lourd. Si vous avez peut-être des problèmes de famille, ça peut faire remonter des choses, parce que c'est ce qu'on disait. En fait, ça... souvent, au décès d'une personne, il y a des secrets qui sortent. Là, c'est un peu le cas, du coup, dans ce livre, puisque elles vont devoir un peu remonter la piste de tous ces secrets pour reconstituer ce qui s'est passé avec leur mère. Il y a une grosse histoire sur l'héritage aussi, l'héritage que nous donnent nos parents, donc qu'ils soient bons ou mauvais, au final, parce que là, du coup, la coupure est très nette entre les deux sœurs.
Oui.
Il y a vraiment une sœur qui a été aimée et l'autre qui, malheureusement, a été rejetée, comme tu l'as dit.
Oui.
Donc, moi, ça, c'est un des points que j'ai trouvé intéressant, d'avoir une mère qui est, en fait, à deux parties.
Deux visages, oui.
Voilà. Donc, ça, c'était un des gros sujets, mais il y en a plein d'autres.
Oui. Oui, non, ça parle du deuil, ça parle du passé, de la question de l'identité, de la sororité, de la maternité. Ça parle de tout ça, de la réconciliation.
Du poids du passé aussi, des souvenirs. Il y a un peu aussi le côté de... nous, on a des frères et sœurs toutes les deux. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision de nos parents qu'ont un frère ou une sœur.
Oui.
Parce que la relation est différente. Et c'est le cas aussi, du coup, dans le livre, où en fait, il y a une des sœurs qui n'a pas perçu la même chose que l'autre sœur. Donc, il y a tout ce côté où, finalement, elles vont aussi devoir mettre un peu d'eau dans leur vin, on va dire.
Oui, chacune fait un pas vers l'autre. Au début, elles sont sur leur rancœur. Et puis, bon, après, effectivement, en échangeant...
ça finit par se dénouer un petit peu.
Ben oui.
Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur... sur la différence de traitement entre les enfants.
Oui.
Donc l'héritage, ça effectivement, on a parlé. Moi, je m'étais aussi noté la lourdeur d'un nom qu'on vous donne.
Oui, comme tu disais, le poids du passé, mais le poids... Voilà,
le poids du nom. C'est ça. Et là, pour le coup, on a un des deux personnages qui, Félicité et Agonie. Bon, clairement, tu pars un peu avec un handicap dans la vie quand tu t'appelles Agonie. Mais d'ailleurs, il y a eu un film sur ça, je sais pas si ça te parle, le prénom.
Oui, si, très bien.
Et voilà. Et
plus coup... joyeux, pour le coup.
Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais du coup
oui, le plot.
Mais effectivement, voilà, il y a des noms qui peuvent être source de pesanteur, en fait, qui sont difficiles à porter au quotidien, comme c'est le cas, du coup, pour Agonie, quoi.
Ouais. Oui, comme quoi le nom aussi va être déterminé. à la fois bah, ton destin, mais aussi ouais, ton histoire, ton caractère, le regard des autres.
Ouais. Mais alors ça, en plus, c'est marrant parce que c'est encore le cas. Enfin, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont persuadés qu'il y a des prénoms, genre, ça va être que des gens chiants, tu vois.
Oui.
Enfin, tu sais, il y
C'est
a
un
des...
nom, la science des noms.
Ouais,
Il doit y
ça,
avoir
oui, la science des noms, avec des gros guillemets. Mais oui, il y
un
a... Enfin, je pense qu'on s'est tous dit, ah, mais oui, je connais telle ou telle personne, elle s'appelle comme
nom.
ça, elle est trop chiante, elle est toujours en train de se plaindre, machin.
Jamais j'appelle mes enfants comme ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, bon, il n'y a pas que le prénom qui fait, il y a forcément toute l'éducation qui va avec. Et là, c'est une grosse question, du coup, dans le livre.
Oui,
Parce
bah
que
oui.
la mère est seule, d'ailleurs, pour
Ouais.
éduquer les deux filles. Donc, bon, bah, c'est
Oui, oui.
un petit peu dur, quoi.
Ouais, mais c'est, oui, bah, tu vois, c'est le bon mot. Effectivement, il y a des passages qui sont très durs, que ce soit en termes de rejet, de violence, de cruauté. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont durs à lire, vraiment. Pour le coup, qui peuvent refaire remonter des trucs pas cool, quoi. Vraiment.
Oui, c'est vrai. Oui, tu m'as dit que tu avais eu des petites
Oui,
larmiches. Tu avais un peu pleuré.
une petite larmiche. Bon, je vous raconterai peut-être dans l'autre partie pourquoi, mais puisque bon, j'ai de la famille aussi dans le sud de la France et tout ça, tu vois, tout ce folklore et tout ça, le rapport avec la famille et tout,
Bah, tu
ça.
t'es projeté, toi.
Un peu, j'avoue. J'avoue, j'avoue.
Non, mais il aborde pas mal de sujets intéressants qui sont vraiment, pour le coup, des sujets bien réels. Et c'est toujours un peu, voilà, comme on l'a dit au début, saupoudré avec cette pincée de choses un peu étranges, de sorcières, de thé, d'ambiance un peu orageuse, de pluie, de phénomènes qui sont un peu bizarres, des grosses fleurs qui mangent tout,
Oui, les
voilà.
fleurs qui indivent. Il y a un côté glauque aussi, il y a un côté étrange, et il y a un côté.
Y a un gros côté glauque, hein.
Ouais,
Il y a des
ouais.
fois, j'étais pas prête, hein.
Morbide
Oui, voilà, plus
et
morbide
glauque.
même. Donc c'est pour ça que ça en fait un bon livre du coup
Oui,
d'Halloween.
tout à fait.
C'est pour ça qu'on l'a choisi parce que il y avait des choses un peu plus classiques dans le genre. On aurait pu se tourner. D'ailleurs Arnaud nous avait fait plein de conseils. Un ami à nous qui on lui fait une petite dédicace en passant et qui nous avait conseillé pas mal de. Enfin moi personnellement il m'avait conseillé des bouquins, mais c'est vrai qu'au final celui-ci moi je trouve qu'il se prête plutôt bien, surtout pour les gens qui sont pas à fond dans la période d'Halloween. Et ben c'est un bon entre-deux, entre un peu d'étrange, mais pas trop. Il y a des scènes un peu, comme tu l'as dit, morbides, voilà. Mais sinon, les sujets sont hyper intéressants, c'est bien écrit. Et ouais, moi j'ai. Ouais, ça mérite bien son 7, hein.
Ouais, je crois. Ouais, je crois aussi. C'est que bon, on reviendra sur les parties que. Bah, le 7 se mérite, aussi bien dans les côtés positifs que bon, dans les petits côtés, dans la lourdeur, effectivement, ça peut peser quand même. Bon, après, je sais pas si le nombre de pages est quelque chose qui t'a gêné, mais
Je l'ai
c'est.
trouvé un peu long,
Oui, ah
un
voilà.
petit peu trop long, mais parce que aussi c'est le style d'écriture qui veut ça, vu qu'elle ajoute beaucoup d'adjectifs, de mots, etc. Elle digresse beaucoup en fait dans ses phrases. Il y a beaucoup de détails, donc forcément le livre est un peu longué parfois. Je me suis dit on aurait pu passer vraiment quelques pages, mais ça fait partie de son style,
Oui, c'est
donc
ça.
ça passe quand même.
Oui. Bah, pour 448 pages, voilà, ce bouquin-là. Donc, je sais plus, je l'ai lu, je sais pas, pendant une semaine et demie,
Ouais,
bon,
je
en
pense
faisant que
que
ça, en fait. Mais oui. Donc, voilà pour la présentation de ce livre et pour la partie no spoil. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur peut-être des raisons de lire ce livre?
oui. Pas plus que ce qu'on a dit,
Ouais,
je pense
on
que
préfère se réserver pour
oui, la
la
partie
partie spoil.
spoil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées quand même à des scènes particulières dans le livre, et du coup on peut pas, voilà, trop en parler là, sinon ça va,
Ouais,
on va vendre un peu la mèche, et
c'est ça.
donc on vous préserve. Mais oui, bah du coup, on passe à la partie spoil.
Et oui, donc bah, pour les auditeurs et les auditrices qui nous quittent, bonne lecture. On espère que vous reviendrez pour écouter la deuxième partie. On se retrouve pour la partie 100% spoil du thé pour les fantômes de ce
Ma
livre.
partie préférée, le spoil.
C'est parti, tu vas pouvoir te lâcher.
Oui, je vais pouvoir déblatérer sur tout ce qui se passe dans le livre. La première partie du livre, donc comme on l'a dit, c'est l'histoire de deux jumelles. Et donc la première partie, c'est sur leur naissance notamment. Moi, j'ai bien aimé du coup déjà l'introduction avec la bergerie.
Oui,
en haut
ok.
du mont Bégaud, parce que comme on l'a dit, donc ça se passe sur les hauteurs de Nice.
Ouais.
Et en fait, on découvre Carmine, qui est la mère en fait des deux jumelles, qui est sur le point d'accoucher. Donc elle habite avec son mari dans une vieille étable paumée au milieu du mont Bégaud. Et on nous dit qu'elle a une grossesse qui dure 11 mois, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Donc bon,
Plus
déjà,
longtemps que d'habitude, ouais.
c'est ça. Et la première personne qui va un peu nous introduire dans ce récit, c'est la sage-femme, qui monte en fait pour aider Carmine à accoucher.
Mireille, de son prénom.
La petite Mireille, tout à fait, qui monte un peu à reculons, hein. Elle n'a pas trop envie d'y aller.
Non, parce qu'il y a déjà... Bon, a priori, les habitants du mont Bégaud, ils sont déjà un peu catalogués par les habitants de Nice.
Ouais,
Et
les
voilà, c'est
Niçois,
le...
ils sont là, okay.
Ouais.
Les pécores de la montagne,
Un
bizarre.
peu étrange, voilà, il y a tout un folklore autour des bergers, du rapport avec la montagne, enfin de la nature. Il y a un truc un peu chelou. Et eux, d'autant plus, parce que voilà, Carmine, elle est considérée un peu comme étrange elle aussi à son tour, limite un peu sorcière. Mais oui, les gens du coin, déjà qu'elle fait partie d'un village un peu spécial, c'est la plus spéciale du village, quoi, en gros.
Oui, voilà, là, le pompon.
Ouais, le pompon. Et donc oui, c'est l'histoire du récit de la naissance des deux sœurs, Félicité et Gonia. Et donc par une nuit, alors c'est complètement chaotique parce qu'au final, la nuit de l'accouchement, il pleut des cordes. Le berger, le mari, canne.
Oui, il meurt. Il meurt, ben oui.
Ciao, papa.
Ah bah
Enfin,
oui, il n'a
non,
rien vu, lui.
non, non. Elle traîne son corps.
Elle
Ouais.
l'enroule dans un truc, elle le met de côté en
Oui.
disant, bon, allez, c'est pas grave, ça attendra.
J'ai autre chose à gérer.
Et voilà. Et du coup, Mireille arrive sur ses entrefaites. Donc déjà, elle enjambe le cadavre du père qui est décédé. Et elle va aider Carmine à... Bon, là, c'est plus mettre bas, hein, parce que vraiment,
Ouais,
ça a l'air d'être une...
délivrance, ouais.
Voilà, ça a l'air d'être une galère. Et donc, la première petite fille naît, et c'est Félicité.
C'est Félicité. Une belle petite fille, voilà, toute mignonne. Et donc, très attendue aussi. On sait qu'on saura après, mais ça faisait très longtemps qu'ils attendaient un enfant, Carmine et le berger. Et on sait son nom d'ailleurs à ce père.
Oui, mais ça m'a pas marqué. Ils le disent à la fin parce qu'elle discute avec lui. Et en plus, c'est marqué sur les actes qu'elle retrouve.
Oui.
Et je me souviens pas.
Je me souviens
J'ai envie de dire Michel, mais c'est pas du tout
pas.
Michel. Non, je sais pas. Mais vous lirez et puis vous verrez son nom, mais
Vous nous direz.
ouais, on sait
Mais en tout cas,
plus.
voilà. Au
Bah,
début, c'est pas.
il est effacé dans tous
Oui.
les sens du terme, donc voilà, non, je ne sais plus. Bref.
C'est un berger tempestaire, mais je sais pas si on
Ah,
peut dire
ce
son nom.
mot, moi je croyais que c'était
Oui.
un truc qu'elle avait inventé.
Non, c'est un truc patois,
Mais oui, c'est du
ouais.
patois, du coup,
Ouais.
de là-bas.
C'est ça. Bon. La première petite fille, Félicité, elle va faire le bonheur de sa maman. Et est-ce qu'elle pensait qu'elle en avait deux dans le ventre, du coup?
Mais je pense qu'elle le savait,
Ouais, je
parce
crois
que du coup,
aussi.
elle avait compris que, tu sais, elle se
Oui.
battait dans le ventre.
C'est vrai.
Donc elle savait qu'il y avait deux filles.
Ouais.
Et du coup, après Félicité, la magnifique petite fille, eh ben, il y a un autre
Il y a un
bébé
autre bébé qui veut pas sortir.
qui veut pas.
Alors là, la sage-femme, elle arrive, elle va essayer de la choper
Voilà.
à l'intérieur du ventre de sa mère, et en fait, elle se fait mordre.
Ce qui est très chelou, hein, parce
Ce qui
qu'on
est
vous
très
rappelle,
chelou.
un bébé n'a pas de dents,
Ouais.
normalement.
Et donc là, pendant que voilà, la sage-femme, en gros, recule, il y a un bébé qui sort
En rompant.
rampant du ventre de sa mère avec une petite dent de lait, et
Un
qui
chicot.
va, un chicot, et qui
Le
va
seul.
se glisser gentiment à côté de sa sœur, qui va même la pousser, l'éjecter du landau, enfin de
Du
l'espace où elle
lange où elles
était.
étaient, ouais, pour prendre sa
Ouais,
place.
c'est ça.
Voilà, donc déjà, on comprend qu'il y a une relation un peu je t'aime moi non plus avec les deux petites
Dès la naissance.
dès la naissance. Et donc, Carmine doit donner des prénoms à ses filles, puisque la sage-femme, en fait, enregistre les prénoms. Après, elle va déclarer la naissance au village. Donc, Félicité s'appelle Félicité pour les raisons qui fait voilà, qu'elle porte ce nom. Et la mère choisit d'appeler la deuxième Agonie.
Oui, c'est le choix de la mère.
Voilà, elle choisit de
Ouais.
l'appeler Agonie, et sauf que Mireille, du coup la sage-femme qui l'a assistée, quand elle repart, donc on la suit, elle redescend au village, et le lendemain elle va à la mairie en fait pour, bah, du coup, comment on dit? déposer les actes, enfin
ouais, les actes de naissance enregistrés.
Et elle se dit non mais c'est pas possible, je peux pas laisser une petite fille s'appeler Agonie, c'est quand même un prénom qui est trop dur pour elle. Et du coup, elle choisit d'inverser en fait tout simplement la lettre de début et de fin et elle note Egonia. Voilà, donc ça reviendra aussi dans le livre.
Oui.
Et c'est aussi ce dont on vous a parlé avant, c'est le poids que peut avoir un nom du coup bah, sur sa propre vie, quoi.
Oui.
Donc voilà, on est déjà bien dans l'ambiance querelle. Et donc après, on a toute l'enfance en fait des deux petites où du coup la mère passe vraiment beaucoup de temps avec Félicité. On sait qu'elle lui ramène, je sais pas si tu te souviens, tu sais, elle lui ramène beaucoup d'oranges, de pomelo.
Oui,
Et
on sait qu'elle part tous les étés, enfin chaque année elle part, on sait pas où,
on sait
enfin les
pas.
filles ne savent pas, les filles restent toutes seules à la bergerie pendant que la mère va faire ses
En
part en
vacances.
vacances. Et elle revient avec des cadeaux et des fruits et
Voilà,
tout ça.
mais qu'elle donne qu'à Félicité parce que Agonie a une particularité. C'est que tout ce qu'elle touche, enfin tout ce qu'elle mange, pourrit instantanément. Donc elle n'a pas vraiment de goût. En fait, elle peut pas manger, ça pourrit directement. Et moi, je trouve là une partie aussi qui m'a fait de la peine, c'est que en gros, dès que Agonie parle, il y a des énormes papillons qui sortent de sa bouche, genre les gros papillons de nuit bien velus là, et qui vont se poser partout et qui font pourrir aussi tous les trucs. Et en fait, sa sœur, dans leur enfance, finit par lui concevoir une muselière pour éviter que les papillons abîment tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi là où Agonie prend l'habitude de ne quasiment pas parler en fait, parce que on lui reproche justement, ben,
De tout détruire.
c'est ça. Elle est vraiment pas voulue et en
Non.
plus elle a que des mauvais côtés en fait. C'est pareil, si elle crache, elle fait naître des énormes plantes carnivores qui en fait ben, mangent absolument tous les autres trucs, quoi. Donc c'est voilà, elle porte un nom qui va avec les pouvoirs qui lui sont donnés, quoi.
C'est vrai. Et toute cette partie-là, la première partie, comme en fait Agonie avec les flashbacks qu'on a du récit de leur enfance, elle s'efface petit à petit. Au début, ben voilà, on sent la colère de la mère envers elle. Et puis après, l'indifférence, et après, tu vois, ça se dilue
Bah,
progressivement.
elle l'ignore en fait.
Elle l'ignore complètement. Au début, elle allait à l'école, et puis après, elle arrête d'y aller parce que les autres se moquent d'elle. Après, elle va vivre dans les poutres du plafond de
Ça m'a un peu. Quand je me suis
bergerie.
imaginé la scène, je me suis dit, ah, je vois trop la. Enfin, tu sais, comme dans les films d'horreur, là, les trucs
Ouais.
qui sont pendus au plafond à
Ouais,
l'envers, ça
ouais.
fait
On dit
vraiment.
vraiment qu'elle est en mode araignée.
Ouais. Elle a le droit de vivre que là-haut, elle n'a pas le droit de vivre en fait au sol avec sa mère et sa sœur. Parce qu'en fait, on apprend que sa mère, quand elle s'aperçoit finalement qu'elle est là, elle a des excès de colère qui sont énormes. Et que visiblement, quand Carmine a des excès de colère, ça fait réagir le temps à l'extérieur. Et elle provoque des orages. Hein.
Ouais, des éclairs, ouais.
Voilà.
Des éclairs et des ombres griffues.
Ouais.
Enfin, il y a quelque chose qui sort d'elle très
Ça,
violent,
ouais.
très néfaste.
Un démon. Ça, j'ai trouvé que c'était bien sur le côté. Bon, si elle lui fait du mal quand même, parce que
Oui,
ben, voilà,
clairement, c'est pas dit, mais
elle la
oui.
griffe, etc. Et le côté un peu, je me dis, quand t'es enfant et que tu dois avoir, par exemple, bah, un parent qui malheureusement te bat, bah, pour toi c'est un monstre. Donc en fait, là, j'imagine que c'est un peu un effet de style aussi qui est voulu dans l'écriture en disant, ok, bah, en fait, il y a cette mère qui est très aimante pour une et pas du tout pour l'autre, et du coup qui va se transformer en monstre, qui est vraiment avec toutes ses ombres pointues, griffues, et qui fait du mal en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien fait dans l'écriture, même si forcément le sujet voilà, peut être un peu dur à lire. Mais en tout cas, elle n'a pas une enfance très facile, Agonie.
Non.
Pas du tout, contrairement à sa sœur.
Oui, mais l'histoire va porter plus d'intérêt à la relation dans cette première partie, justement entre sa mère et Félicité. Enfin, entre la mère et Félicité, la première. Donc on a des flashbacks de leur enfance et le point de vue, c'est celui de Félicité, c'est celui qu'on a. Alors du coup, il y a les cadeaux, il y a toute cette partie, tu sais, où elle commence à se teindre les
Oui.
cheveux ensemble,
Ouais.
où elle lui ramène le service à thé. Donc t'as toute cette partie-là plutôt lumineuse, on va dire, entre
Bah,
guillemets.
elle est choyée, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que le contraste est d'autant plus fort avec Agonie qui doit vivre dans les poutres avec absolument rien, qui peut même pas se réfugier dans la douceur de quelque chose qu'elle pourrait manger, puisque en fait tout pourrit à son contact. Donc, voilà, elle est vraiment. les deux côtés, le sombre et la lumière. Et c'est vrai que voilà, la première partie, c'est vraiment Félicité qui raconte sa relation avec sa maman, qu'elle aime. Hein,
oui.
Vraiment, elle adore, hein, malgré ce qu'elle fait. Elle essaie de protéger un peu sa sœur, mais elle veut quand même que sa mère l'aime. Et en fait, ça prédomine sur la relation qu'elle a avec sa sœur.
Oui.
Donc au final, elle est plus du côté de sa mère.
Et elle fait du mal quelque part
à sa sœur. Elle finit par l'abandonner aussi. Et c'est ça aussi qui va se passer à la fin de cette première partie.
Oui, on a à la fois les flashbacks de l'enfance et ça arrive jusqu'au présent. Parce que du coup, on a la relation mère-fille dans le passé et la relation dans le présent. Donc on sait que Carmine habite toujours au fin fond
du Mont Bégo.
Ouais, du Mont Bégo. Elle est toujours dans sa bergerie alors que le village de Bégouma a disparu.
Ouais, on ne sait pas d'ailleurs où est-ce
qu'il est. On sait qu'il y a eu une catastrophe.
Il y a une catastrophe et du coup, les villageois ont déserté complètement. Ou ils s'est déplacés, je ne sais plus. Non, je crois qu'ils n'y sont plus du tout. Là.
Ils ne sont plus, oui.
Voilà, ils ont arrêté parce que le village a subi plusieurs catastrophes naturelles et ils se sont déplacés au fur et à mesure. Mais là, c'était la faute trop et ils sont tous partis, sauf elle.
Ouais.
Et sauf qu'on apprend finalement qu'elle est démente.
Ben voilà, donc dans le présent, effectivement, on sait que Félicité continue à faire les allers-retours entre Nice et le Mont Bégo pour aller voir sa mère, la ravitailler. Toute une partie, donc elle refait le voyage, d'abord en voiture, puis après à pied.
Avec toute la nourriture qu'elle doit lui apporter, parce qu'en fait, sa mère étant démente, elle oublie de se nourrir. Et surtout, c'est là où on apprend qu'en fait, Félicité ne voit quasiment, entre guillemets, plus sa mère, puisque du coup, sa mère est habitée par d'autres personnes.
Oui.
Ça aussi, c'est bien illustré le fait que les personnes qui auraient ce type de, je sais pas si on dit démence, je sais pas.
Non, c'est trouble de l'identité, je crois.
Ouais. Et au final, en fait, la mère du coup Carmine, vu qu'elle vit seule, et ben, elle a pris la place de tous les habitants qu'il y avait avant. Donc en fait, quand Félicité monte, elle ne sait jamais qui elle va avoir pour discuter. Et en fait, c'est très 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 rarement sa mère sur les dernières années. Donc ça la peine beaucoup. Elle peut plus parler avec sa mère. Et elle se sent emprisonnée dans cette habitude de devoir s'occuper d'elle.
De ce rôle d'aidante et de...
Voilà. Qui doit arriver à beaucoup de gens. Hein. Quand tu t'occupes d'un parent, à la fin, ça te pèse autant que tu le fais parce que tu ne devrais pas faire autrement. Quoi.
C'est ça. Bah, c'est un peu... On sent vraiment ce tiraillement entre effectivement le aider... Enfin voilà, venir en aide à une mère, à lui rendre un peu le soin qu'elle nous a donné dans l'enfance. Et en même temps, elle lui en veut un peu parce que elle descend pas de sa montagne alors qu'elle pourrait très bien. Elle lui fait vivre ce chemin encore et encore, ses allers-retours et encore et encore.
Moi je trouve que là, on comprend bien que c'est vraiment la matriarche qui impose sa volonté à ses enfants.
Oui, c'est vrai qu'il y a des moments genre elle l'amène un peu par les sentiments, tu sais, pendant l'enfance, elle va.
Ouais, il y a un peu de chantage
affectif. Un peu de culpabilité,
aussi, ouais, clairement.
Et donc cette première partie, effectivement, elle se termine par un des voyages de Félicité pour aller voir sa mère donc dans ce village-là. Effectivement, sa mère n'est pas présente au niveau des personnalités qui font front dans son corps et son esprit. Et cette fois, elle va essayer de la bousculer un peu. Elle l'emmène à la bergerie, elle va la confronter à son portrait.
Oui, qu'elle a peint et repeint, et qu'il y a des couches entières de peinture. Parce qu'on comprend aussi que Carmine, elle a une obsession de ce qu'elle reflète et de sa beauté, et qu'elle y fait très très attention, et on comprend qu'en fait, elle avait le même tableau d'elle, c'était un autoportrait, mais qu'elle a touché, retouché, retouché, du coup, le truc, il doit être énorme. Il doit y avoir des couches de peinture incroyables.
Elle est un peu en 3D.
Et surtout, on comprend qu'au fil des années, en fait, elle s'est auto-déformée. Au final, à force de repasser, de vouloir retoucher, en fait, elle s'est mochifiée. Je sais pas si on
sait. Oui.
Mais voilà. Mm. Et oui, elle essaie de la confronter.
Et là, la personnalité, la santé mentale se détériore. Mais voilà, c'est net. Il y a une rupture nette au niveau psychologique de sa mère, et elle redescend, Félicité, et en fait pendant ce temps-là, quand elle arrive chez elle, elle a un message vocal. Alors on sait pas trop ce qui dit, mais un grand fracas, on a des bouts de phrases,
du verre brisé,
on nous parle d'un cri, et hop, Félicité sait que sa mère
est morte.
Sa mère est morte.
Voilà. Et ça c'est la première partie.
Fin de la première partie autour de la relation, on va dire mère-fille. Et moi, je voulais revenir sur le portrait. Je sais pas si ça t'a fait penser à ça. ça m'a rappelé un peu Dorian Gray. C'est le fait que bah, quand il se regarde dans un miroir et son reflet, lui, est très beau, il reste éternellement jeune, mais quand il regarde son reflet, c'est un monstre. Parce que du coup, il intériorise, enfin, son reflet va capter tous ses démons, ses méfaits.
Oui, et voilà. Les personnifier, oui, avec le visage.
Ça, oui, ça m'a fait penser à ça un peu.
Ouais, je connais pas, mais c'est vrai que pour le coup, c'est bien décrit dans le livre. Et... Oui, j'ai eu la même impression.
Ensuite, cette rêve qui m'a popé.
Et du coup, la deuxième partie.
Oui, plutôt autour. Là, on va plutôt approfondir relations, la sororité. Les deux sœurs, parce qu'à l'annonce de la mère, enfin de la mort de la mère, donc Félicité va utiliser une de ses tasses, l'étrangeté, pour avertir sa sœur.
Oui, parce qu'en fait, ça, on ne l'a pas précisé non plus, mais le métier de Félicité, en fait, c'est vraiment passeuse d'âme, et du coup, elle a un cabinet, en fait, dans le palais, dont j'ai oublié le nom.
Ouais, c'est Cours Saléa à Nice, on sait.
Ouais,
oui,
voilà,
le palais, il a un nom, effectivement. Oui.
Et donc, elle a un... Oui, en fait, elle est investigatrice.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est quand les personnes ont besoin de retrouver des gens qui sont disparus pour discuter avec eux, ou voilà, ce genre de choses. Et on apprend qu'elle les fait parler grâce à différents thés. On ne sait pas encore comment elle a fait pour obtenir tous ces thés.
Mais du devenir coup, ça... théologue.
Théologue. Mais on l'apprend du coup dans la partie sur laquelle on reviendra après. Mais effectivement, la deuxième partie, donc Félicité prévient sa sœur avec c'est pas du marc de café, mais du marc de feuilles de thé, quoi, en fait.
Un peu comme Harry Potter.
Oui, avec
dans
le
cours. Oui. Cours de divination, avec le sinistro,
c'est
tout.
Exactement, c'est la même chose, et du coup elle prévient que leur mère est morte.
Oui.
Et en fait, finalement, il y a un message. Alors que ça fait 20 ans qu'elles ne se sont pas parlé,
oui,
je crois.
Même plus, 30, je crois.
Voilà.
Ouais, ça fait 30 ans qu'elles ne se sont pas parlé.
Ouais, parce qu'on apprend qu'elle est partie en fait quand elle avait 16 ans,
ouais.
De la montagne. Ouais. Et
elles ne se sont plus jamais revues.
Et elles ne se sont plus jamais revues parce que justement... Félicité a fait des études, ce qui n'est pas le cas d'Egonia, et du coup elle est partie, et donc en fait finalement, Egonia est partie aussi, de son côté, donc là elle répond, elle met « j'arrive », avec des fautes d'orthographe, puisque du coup elle n'a pas été à l'école.
Voilà.
Et donc les sœurs vont se retrouver.
Les sœurs vont se retrouver, elles se retrouvent auprès du cadavre de leur mère, parce que du coup elle remonte au mont Bégo, et...
Là la scène est un peu trash, hein.
Oui.
Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi morbide, parce que en fait, on comprend que finalement, la mère a voulu utiliser la seule cabine téléphonique qui fonctionnait, et au final, elle s'est battue contre elle-même, et en fait, elle a brisé.
Enfin, il y a beaucoup de sang, beaucoup de mort violente, pas belle.
C'est bien décrit.
C'est très très détaillé. Effectivement, avec des odeurs, des images, enfin voilà, c'est assez, assez morbide pour le coup.
Et là, elles vont, je crois, de mémoire, elles vont féliciter, récupérer une clé que sa mère avait autour du cou.
Oui.
Qui va servir pour ouvrir un petit coffre qu'il y a dans la bergerie.
Effectivement, elle se retrouve, elle monte à la bergerie, effectivement. Egonia, assez distante par rapport aux événements,
genre la
morte et tout ça. Moi, je pense qu'elle a fait le deuil de sa mère il y a très longtemps.
Oui, elle n'a pas l'air hyper affectée, mais elle vient plus pour clore un chapitre.
C'est ça.
On sent que elle veut quand même...
lui poser des questions.
C'est ça. Elle a envie de parler au fantôme de sa mère, mais malheureusement, elle ne le trouve pas.
Il n'est pas là. Le fantôme de la mère n'est pas là. Félicité le cherche. Parce qu'il y a... Alors, dans son métier, passeuse de fantômes, on nous dit que les gens, une fois qu'ils sont morts, ils sont fantômes pour une raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas délivré leur dernier mot ou leur dernier message.
Voilà, ils ont été coupés, mais d'une phrase.
Voilà, ils vont rester sur terre le temps que Félicité les retrouve et les fasse passer après
dans l'au-delà.
Voilà. Et donc, le but, ça va être de retrouver le fantôme de sa mère, parce qu'effectivement, elle a été coupée au téléphone. Elle n'a pas pu finir sa phrase.
C'est ça.
Et donc, ils se retrouvent à la bergerie. Donc, elles montent toutes les deux à la bergerie sur un peu les terres de leur enfance. Donc, on retrouve d'autres flashbacks toutes les deux. Tu sais, avec la vallée qu'elles avaient toutes les deux. Enfin, on essaye par les flashbacks. L'auteur nous montre un peu la relation qu'elles avaient toutes les deux en dehors
de leur mère.
En dehors de leur mère. Un peu cette idée-là. Et effectivement, Egonia, elle va retrouver quelque chose. Je pense qu'elle le cherchait parce que elle sait directement où aller chercher l'objet en question qu'elle voulait. En l'occurrence, le journal intime de sa mère.
Mais parce qu'elle l'avait vu
Elle
écrire,
l'avait vu écrire.
donc elle savait qu'elle avait un carnet.
Oui.
Et c'est Egonia qui tombe dessus, hein, c'est
Oui,
ça?
elle le
Oui,
retrouve.
bah
Elle le
oui.
retrouve, elle le feuillette et elle le détruit parce que tout ce qu'elle touche se détruit pourri.
Oui, tout à fait. Donc là, du coup, Félicité n'est pas très contente parce qu'elle se dit que ce carnet aurait pu leur apporter des réponses et que malheureusement, Egonia vient de cramer la preuve dont elles auraient pu avoir besoin.
Oui. Et donc ça elles sont toujours dans le village. Félicité va se rendre à ce moment-là dans les archives de la mairie et elle va retrouver tous les documents qui concernaient sa mère. Et là, premier indice dans sa quête, parce que ça va se transformer en recherche, en quête, en voyage pour chercher le spectre de leur mère. Elle trouve un premier indice. Elle trouve deux certificats de mariage.
Ouais, et là, choc barre. Parce que c'est ce que je disais au début dans la partie sans spoil. C'est souvent en fait que quand les personnes décèdent, que des gros secrets comme ça resurgissent. Et notamment des personnes qui en fait ont eu des vies avant, ou des enfants, ou des maris, en fait, dont on ne savait pas qu'ils étaient là. Donc là, effectivement, surprise.
Donc deux mariages et à des années, un demi-siècle d'intervalle.
Oui.
Donc elle savait qu'elles étaient un peu spéciales, mais je pensais pas qu'elle pensait que leur mère était spéciale jusque-là.
Oui, parce qu'en fait, au final, on comprend que c'est un peu une famille de sorcières, parce que voilà, Carmine, elle a vécu je sais pas combien de siècles.
Une 100 voire 200 ans, je pensais comme ça, je
Ouais,
crois.
donc
Voilà.
elle a eu bien le temps de vivre.
Oui.
Donc en soi, c'est pas étonnant qu'elle ait eu deux maris, mais par contre, Félicité est très déçue parce qu'elle partageait tout avec sa maman, et sa maman
Ouais,
ne
ils sont un
lui a
peu
jamais
trahis.
dit. Donc elle est ouais voilà, il y a un gros sentiment de trahison. Je me dis en fait elle me faisait pas confiance quoi.
Ouais. Du coup, elle remonte dans la bergerie, elle va interroger son père, parce que le fantôme de son père est toujours là.
Ouais.
Il est mort avant d'avoir pu les rencontrer, elles, d'avoir pu clore un chapitre au milieu d'une phrase. Donc, il a toujours été là, leur père.
Mais il
Donc,
a pas envie de
Félicité
partir,
a.
hein.
Non, non, il est bien. Il est bien.
Donc il reste. Et c'est vrai qu'elle lui fait boire le thé. Et on apprend que en fait le père lui il a vu Carmine débarquer un soir comme ça à sa bergerie et qu'il n'a pas posé de questions.
Elle s'est installée
Voilà, il a dit let's go, c'est ma chance, hein. Le vieux berger, il s'est dit
Ouais.
allez, de toute façon, en plus ça avait l'air d'être une très belle femme.
Oui.
Donc lui il est là, je trouverai jamais mieux. Donc il n'a pas posé de questions, c'est vraiment je trouve le personnage taiseux.
Oui.
Voilà. C'est
Oui.
il se pose pas de questions, lui il prend les choses comme elles
C'est
viennent.
vrai.
Donc voilà, du coup elles apprennent pas grand-chose si les grands-parents.
Oui, en fait, il savait pas grand-chose de sa vie. Il n'a jamais posé question, comme tu disais, quelqu'un de très taiseux qui vivait le moment présent. Bon, il y a une femme qui est là, qui vient m'aider dans la bergerie, qui cherchait asile. Bon, on s'est rapprochés. On s'est tenu chaud sous les peaux de mouton. Et donc, par contre, voilà, il savait qu'elle avait deux parents qui étaient enterrés à Nice. Donc voilà, l'enquête continue. Cette fois, les deux sœurs redescendent à Nice. C'est le début de la cohabitation entre les deux, donc
Oui, c'est
30 ans plus
vrai.
tard, elles réapprennent à vivre ensemble
Avec perte et fracas.
avec perte et fracas. C'est d'ailleurs dans le livre, c'est la première fois qu'on a justement la poésie qui intervient, quand les deux sœurs ne se parlent pas, mais se parlent à elles-mêmes. Tu sais, il y a tout ça, un dialogue entre aligné à gauche, aligné à droite,
Oui,
et donc
ça c'était
on a
bien
ces
fait, ouais.
vers-là au niveau de la
Oui,
cohabitation.
les non-dits, en fait,
Ouais,
qu'elles pensent,
c'est
mais
ça.
qu'elles n'arrivent pas en fait à dire. Ouais.
Et donc l'enquête continue. Elle se rend au cimetière du château à Nice, donc j'imagine l'un des plus vieux cimetières de la ville. Et elles essayent de retrouver la tombe de leurs grands-parents. Elles cherchent Adélaïde et Zaccario.
Tout à fait. Et là, il y a une. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est bien décrit. Et moi, je me suis un peu vue vraiment dans ce cimetière avec cette chaleur écrasante en train de chercher, de gratter les tombes pour savoir si ils sont à tel endroit ou quoi. Et au final, elles finissent par trouver.
Oui.
Bah d'ailleurs, c'est grâce à Egonia.
Oui, au fond d'un mur, enfin sur le mur du fond, un des murs du fond du cimetière, elles retrouvent la trace, enfin des écritures qu'elles n'arrivent pas à lire au début. Okay, ça me fait rire, ils font appel à l'association des liseurs de tombes.
Oui.
Qui trouvent finalement le nom d'Adélaïde et Zacario. C'est là qu'on apprend que Adélaïde était nourrice oracle.
Ouais.
Et Zacario était majordome cartographe.
Très précis, hein.
J'avoue.
Sacré boulot.
Avec la date de leur mort.
Oui, oui, oui.
Et donc, armés de ces nouvelles informations,
ils vont voir leurs grands-parents.
Félicité, elle se rend d'abord aux archives départementales.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là qu'on fait la rencontre d'un autre personnage.
Oui, qui est Marine.
Marine, ouais.
Marine qui, en fait, on comprend parce qu'il y a plein de passages dans le livre, qui est le mentor, en fait, de Félicité sur l'apprentissage de l'art d'été.
Oui.
Et de ce que, en fait, on peut en retirer. Donc, on apprend que Félicité, elle a fait des études pour être théologue.
Mm.
Donc, elle a beaucoup voyagé sur le continent asiatique, même ailleurs. Et qu'en fait, elle a appris les propriétés du thé, etc. Et qu'en fait, elle se sert de ça pour donner le thé adapté, pour faire parler les fantômes et du coup les aider à passer à l'au-delà.
C'est ça.
Donc, Marine, moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé.
Mm-hmm.
Qui est plutôt... elle mâche pas ses mots, quoi.
Non, oui, c'est quelqu'un de très authentique, entier.
Mm.
Et un physique aussi un peu atypique, elle a le crâne rasé avec un gros tatouage.
Oui, 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 ça c'est...
Elle nous explique dans le livre pourquoi, c'est par rapport forcément avec sa vie. Pareil, on a encore un récit très détaillé de leur rencontre au lycée, où elle était bibliothécaire, et du coup elle l'a chopé en train de lire un de ses livres, du coup elle devient son apprentie et tout ça.
Donc, et après elles deviennent amies au final.
Elles deviennent amies, et ça fait un peu lien avec la partie d'avant, parce que quand Félicité est descendue de sa montagne pour aller au lycée, au début elle avait juré, elle avait promis à sa mère et à sa sœur de revenir.
Surtout, oui.
Et en fait elle est pas revenue.
Elle n'a pas eu le courage de remonter, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles au final, à la fin, Agonie est partie.
Oui.
Et c'est d'ailleurs entre-temps, je crois qu'elle a été... C'est là où elle a trouvé son prénom, Egonia.
Egonia, oui, je crois, oui.
Parce qu'elle était descendue aux archives, et en fait, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait été appelée Egonia. Et finalement, avant de partir, elle a fait un petit tour aux archives, et c'est là qu'elle a découvert que la sage-femme l'avait appelée Egonia. Et elle a choisi, en fait, de s'appeler Egonia plutôt que Agonie, pour un peu conjurer le sort avant de partir.
Et oui, oui. Du coup, on retrouve Marine aux archives, parce qu'après avoir été bibliothécaire du lycée de Félicité, elle est devenue théologue archiviste. Du coup, on la retrouve là-bas. Et donc, elle consulte le dossier d'Adélaïde et Zacario.
Mm.
Et donc là, on apprend qu'Adélaïde, elle avait plus de 300 ans quand elle est morte.
Eh oui.
Et que Zacario venait d'Espagne. C'est la première fois qu'on apprend cette information. Il était espagnol. Et là, ça a fait tilt à Egonia, qui se souvient avoir lu le mot Espagne sur le carnet.
Mm.
Et donc, à l'évocation de ce mot, Félicité, elle va vouloir forcer la confession de sa sœur et elle va lui faire boire un des thés qu'elle infuse pour la faire parler.
Sauf que, on ne peut pas faire boire un thé à quelqu'un qui ne veut pas.
Mm.
Et du coup, elle a bafoué une des premières règles, en fait, d'une bonne théologue. Donc, malheureusement, elle va perdre l'amitié un peu de Marine.
Ouais.
Parce que Marine va la rejeter, en fait, elle va lui dire « Mais t'as complètement perdu la tête, là, t'es à côté de tes pompes et tout. » Donc, elle la vire.
Mm-hmm.
Et après, je sais plus trop ce qui se passe.
Egonia aussi, du coup, là, ça provoque la colère d'Egonia qui va cracher des gros molars chez Félicité. Et tu sais, ça fait pousser une énorme plante, ça fait un trou dans le plafond.
Oui.
Et elle s'en va. On sait pas où, mais elle s'en va. Egonia, de chez Félicité.
Oui, 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 je me souviens. Mais j'avoue que ça m'a pas trop marqué. Après, elles vont quand même se retrouver après.
Elles se retrouvent. Alors, un gros down de Félicité. Genre, j'ai vraiment merdé et tout ça.
Oui.
Mais quand même, il faut que je retrouve ma mère. Donc elle va, en retrouvant le dossier de ses grands-parents, elle sait où ils habitaient. Ils habitaient dans une villa à Nice. Et donc du coup, elle s'y rend. Elle rencontre sa grand-mère, Adélaïde, et son grand-père, Zaccario. Et donc là, ils ont des échanges, enfin, tous les trois. La grand-mère, enfin, très, très bizarre,
Ouais, les
sorcière. Donc c'est elle qui donnait les noms
aux enfants.
aux enfants de Nice et des environs. C'est là où on nous parle des noms et des outre-noms, donc
Oui,
des noms qu'on porte,
ouais,
des noms,
de notre âme,
ouais, des noms intérieurs.
voilà, qu'on peut découvrir ou qu'on découvre jamais. Et enfin voilà, il y a toute une partie un peu ésotérique sur le nom et l'importance qu'on lui donne et la place qu'il peut prendre aussi. Donc bon, clairement la grand-mère, elle est acariâtre au possible.
Ouais, Félicité s'en rend compte. Et pourquoi ils sont restés, pourquoi ils sont fantômes? Ils disent qu'ils attendent leur fille. Carmine. Ils attendent Carmine depuis qu'ils sont morts. Et en fait, y a un moment, Félicité va essayer encore de forcer un peu la confession en disant que voilà, que Carmine est morte. Mais bon, comme ce sont des fantômes, il ne faut pas les brusquer. Bref. Et donc en partant, Adélaïde va péter un câble. Elle va faire exploser toutes les vitres.
Oui, et la
Et
verrière, ouais,
la
c'est vrai.
verrière. Et donc, Félicité va sortir de chez ses grands-parents avec une photo sous le bras qu'ils ont gardée
Leur fille.
de leur fille, donc de Carmine, avec un enfant dans les bras. Et sauf que cet enfant, il ressemble ni à Félicité, ni à Égonia.
Voilà, donc elles apprennent que ben, finalement elles ont une sœur.
Elles ont une sœur.
Voilà, elles savent pas si elle est encore vivante, mais en tout
Non.
cas elles ont une sœur.
Et donc, elles se retrouvent toutes les deux. Félicité et Égonia sur la plage. Là, il y a encore un long passage, un long poème, encore des silences, encore des non-dits, mais on sent qu'elles se sont réconciliées.
Et après, c'est là où elles vont partir du
Et
coup
oui.
pour l'Espagne.
Voilà, on sent, la dernière partie du livre, c'est plutôt le chemin vers la guérison, et bah, on va retrouver les traces de Carmine. Donc, on passe d'autres détails, mais le fait que Zaccario soit espagnol, on sait que ben, avec les problèmes à Nice au début du siècle, donc j'imagine ça doit concerner une des guerres mondiales, ou enfin, je connais pas trop le contexte de cette époque-là, on sait que Carmine elle a été envoyée en Espagne auprès de son oncle.
Oui. Ah oui, oui, il y a toute la partie avec le désert et
Voilà.
qu'au final elle va.
C'est ça. Donc les deux sœurs vont se rendre en Espagne, dans
C'est
le
ça.
désert d'Almeria, dans l'espoir de retrouver le fantôme de leur mère et retrouver en même temps leur sœur.
Oui, voilà, parce qu'en fait, tout le but de chercher dans cette quête de mémoire, c'est de trouver en fait l'endroit auquel la mère se serait rattachée, en fait. Donc elle pensait que c'était la bergerie, mais non, chez les grands-parents non plus. Donc là, du coup,
Peut-être l'Espagne.
elles ont bon espoir de la trouver là-bas. Elles vont pas la trouver, mais par contre, elles vont trouver leur sœur,
Leur sœur, Vera.
Vera. Voilà, qui est bah, clairement, c'est l'opposé de Egonia. Parce
Oui.
qu'elle, en fait, on apprend que la mère allait la voir pour se régénérer, retrouver sa beauté
Chaque été,
chaque été. Et donc, en fait,
c'est
au
là où elle
final,
allait.
c'est ça, puisque du coup, y a plein de fruits, etc. Et bah voilà, elles se retrouvent toutes les trois, elles discutent.
Et bah, elles vont combler les trous un peu de
C'est ça.
l'espoir de leur mère.
Voilà. Et du coup, il y a une médiation qui se fait grâce aussi à Vera, qui a beaucoup plus vécu. Et qui a du recul par rapport en fait aux deux sœurs et qui n'a pas de différend avec elles. Donc elles vont repartir ensuite d'Espagne sans Vera
Ça, on verra.
et au final elles vont retourner donc à Nice.
Oui, parce que Vera leur avait avoué. On a toute l'histoire de Carmine en Espagne. Donc pareil, un peu une histoire abracadabrante, légendaire, autour d'une guerre dans le désert. Et comme elle provoque des tempêtes,
Oui, elle a porté de la pluie.
voilà, donc un peu vénérée.
Ouais.
Et en même temps, on dit c'est
Une esclave.
une esclave dans une région où le temps passe, mais on s'en rend pas compte.
Oui, là, c'est toute une partie un
Ouais.
peu, voilà, le désert, les mirages, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on voit pas
Oui.
le temps passer.
Un peu flou et tout. On sait qu'elle avait d'autres noms, Carmen puis Caridad.
Oui.
En mode, voilà, dans son nom un peu de déesse. Et Vera nous apprend que, en fait, Carmine avait une jumelle. Et donc, retour à Nice auprès des grands-parents pour leur faire cracher le morceau.
Ouais. Donc là, il y a tout un truc pour essayer de leur arracher la vérité. Et elles apprennent au final que elle s'appelait.
Que, effectivement, il y avait bien une jumelle.
Oui.
Les jumelles s'appelaient Carmine et Karine.
Voilà.
Et que Carmine faisait le bonheur de sa maman. Et
Comme
que
par hasard.
Karine était rejetée. Donc,
Voilà.
il y a un écho avec les deux sœurs.
Et c'est là qu'on apprend que finalement, les grands-parents attendent Carmine,
Carmine
qui est morte
qui est morte
quand
dans
elle
Nice.
avait 7 ans,
Ouais.
parce qu'elles jouaient ensemble les deux sœurs et elle est tombée dans un puits. Et voilà. Et là, ça leur fait tilt
Mais
aux deux jumelles.
attends, ce puits.
Mais ce puits, ça me dit quelque chose. En fait, au final, elles vont, quand Félicité allait voir sa mère, c'est dit au tout début, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, ça boucle bien. En fait, elle passe devant un puits et on nous dit, il y a le fantôme d'une petite fille qui est devant ce puits. Et donc là, tout de suite, Félicité se dit, ah ok, d'accord. Donc en
Je
fait,
sais.
je sais. Donc elles y vont toutes les deux. Et là, il y a la partie où du coup, ça va être vraiment la résolution, en fait, avec leur maman, où du coup, elles vont descendre dans ce puits. Et moi, j'ai bien aimé cette partie.
Ouais.
Ouais, parce que du coup, elles descendent dans le puits. La petite fille est là, donc elles la suivent plus ou moins.
Oui, elles la suivent. Alors on sait, voilà, elles arpentent des chemins et elles arrivent dans une magnifique église enterrée avec toute la
Souterrain.
peinture, des couleurs.
Ouais.
Ouais, c'est là où on retrouve le fantôme à la fois de Carmine et de Karine.
Voilà, parce qu'en fait, on apprend que Karine, qui était l'enfant, qui était rejetée, a pris la place de Carmine. Et notamment sur le carnet, en fait, c'était le carnet de Karine qu'elle avait piqué. Et elle a repassé le R pour faire un M et vraiment prendre sa place. Enfin voilà, parce qu'elle aussi, elle voulait être aimée. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir vécu ça et finalement de reproduire, mais comme quoi les schémas, malheureusement, ils se brisent pas si
Mais
facilement.
oui. Et donc les deux sœurs donc retrouvent leur mère. Là, on a donc les derniers mots de la mère. Après, au niveau de la narration, c'est un long poème. Et en fait, Félicité veut faire passer sa mère. Et en fait, sa mère lui dit, non, mais mes derniers mots n'étaient pas pour toi, ils étaient pour Egonia. Et après, alors cette histoire-là est finie. Et après, il y a plusieurs épilogues à l'histoire. On a d'une part le conteur qui nous raconte. Il a une place spécifique dans l'histoire. On sait qui c'est, on apprend qui c'est.
Oui.
On a un épilogue aussi sur le fait que Félicité et Gonia montent le salon de thé.
Ensemble, ouais, tout à
Ouais.
fait.
Et au final, le salon de thé dans lequel se trouve le conteur et nous, en tant que spectateurs, c'est celui de
De...
Félicité et Gonia.
Ouais.
C'est Egonia qui tient le salon de thé. Et. Parce qu'on apprend que Félicité est décédée.
Oui, parce qu'en fait, c'était des personnes qui avaient du coup une longévité absolument incroyable et finalement, il fallait choisir de partir au final.
Pas Félicité, elle n'était pas immortelle, seule Egonia et Vera l'étaient.
Ah oui, c'est vrai,
Ouais.
c'est vrai. Et du coup, oui, en fait, elle s'assoupit
C'est ça.
en buvant un thé avec sa sœur à
Ouais.
côté. Donc là, la fin est plutôt, c'est une fin douce pour
Oui,
elle.
c'est vrai. Donc, en fait, c'est très. Enfin, rien qu'à faire un résumé détaillé comme ça, c'était.
Ben, il n'est pas assez détaillé
Non.
pour tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vrai que si, du coup, vous lisez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est passé vite. Mais parce que, voilà, le récit est très, très riche. Il y a beaucoup de détails. Il y a des personnages dont on n'a pas du tout parlé.
Oui.
Donc, mais bon, c'est aussi ça qui fait l'intérêt du livre, hein. C'est vraiment le style d'écriture qui est particulier, qui nous a bien plu, au final. Et du coup, quel est ton personnage préféré?
Le personnage préféré. Moi, j'ai beaucoup été touchée par le jardinier photographe. Je sais pas si tu te
Oui,
souviens
c'est vrai que
qui
voilà,
c'est.
un personnage dont
Ouais.
on a peu parlé. Oui, tout à fait, ouais.
Sur voilà, le fait de capturer des photos, la beauté des choses. Et puis, je sais pas, je l'ai trouvé très, très poétique. C'était mignon. J'ai bien aimé. Et toi?
Moi, j'ai bien aimé le personnage de Marine. Voilà, parce que j'ai bien aimé la partie où justement tu comprends pourquoi elle s'est coupée les cheveux, pourquoi elle a ce tatouage, etc. Et tu sens que voilà, elle est indépendante, qu'elle vit de sa passion et qu'elle laisse personne lui dicter ses choix. Donc ça, c'était chouette,
Ouais.
voilà, d'avoir un personnage un peu fort
Mmh.
de mentor, c'était bien.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées dans le livre?
Bah, hormis voilà, des passages un peu longs, ouais, des fois peut-être un peu trop de détails pour entre guillemets rien. Mais bon, bah, voilà, encore une fois, ça fait partie de l'univers de l'autrice.
Oui, c'est moins, je pense que c'est moins centré sur les événements que sur les sentiments.
Oui,
Et donc, du coup, c'est vrai que peut-être
c'est un peu dur
t'as,
à suivre des
ouais,
fois.
pour les, au niveau, faut faire, enfin, t'as des parties qui font avancer l'histoire, mais t'as des parties introspection qui sont très longues et très détaillées. Là, vraiment, on est plus dans le sentiment, la psychologie des personnages, et moins d'en faire avancer l'histoire. Donc, c'est peut-être ces parties-là qui,
Oui, qu'on a ajouté un petit peu de la
moins.
lourdeur, mais bon, après, voilà, ça m'a pas trop dérangé. Il n'y a pas de gros points négatifs à
Non.
part, voilà, à part, il y a un peu
Oui.
trop de blabla des fois. Mais bon. Et
Oui.
toi?
Moi, c'était. Bah, j'ai bien aimé le livre. Je trouve que des fois, il était peut-être trop complexe à appréhender. C'est un récit d'un récit dans un récit.
Oui, des fois, on passe à plusieurs temporalités en même
Oui.
temps, on passe à travers plusieurs personnages.
Le passé, le présent, le futur avec les autres noms. Enfin, c'était compliqué. Les personnalités de la mère, qui a des noms différents. À des époques de sa vie, c'était. Fallait jongler avec tout ça, plus la dimension psychologique lourde. Et des fois, ouais, ça en fait, je pense, malheureusement, peut-être une lecture parfois
Lourde.
difficile à aborder.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une lecture comme par exemple la Faucheuse dont on a fait voilà, les podcasts avant. Ça, c'est vraiment fantasy young adulte. Là, c'est adulte. Parce qu'il y a, y a trop d'éléments, trop de vocabulaire qui sont. Enfin, c'est vraiment, c'est pas pour une personne qui aurait 15 ans. Et en plus, il y a des sujets qui sont un peu délicats. Bon, après, voilà, peut-être que si il y a des enfants qui sont matures, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai déjà vu des trucs où je me
Oui,
dis, avec le
pareil.
recul, bon, peut-être
Oups, j'aurais pas dû.
que j'aurais peut-être dû attendre. Mais bon, voilà, c'est plutôt à destination d'un public adulte.
Oui.
Donc, ne vous fiez pas à la couverture qui est toute
C'est
pipou,
vrai, elle est
avec des
toute
petites T.
douce et tout.
Ouais, non, en fait, les sujets sont plutôt durs, mais non, vraiment, c'était une bonne lecture pour
Ah bah
Halloween.
oui.
Donc, on espère aussi que si vous avez lu le livre, ben, n'hésitez pas.
Nous en parler, savoir si, comme moi, vous pensez qu'en fait, on aurait pu faire 3 livres sur
Avec.
ce bouquin.
Non, c'est vrai. C'est
C'est
vrai.
avec tout ce qui se passe des différents.
Ouais. Mais voilà. Bon, on espère que du coup, cet épisode
Oui.
spécial Halloween vous aura plu. Et puis, bah, on vous dit à bientôt pour la suite du podcast
Ouais.
Lectus.
À la prochaine, on enchaîne sur une trilogie.
Et oui, tout à fait, sur la passe-miroir.
Allez, on a hâte.